Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Corinthiens chapitre 11. Il arrive que les choses que nous faisons, souvent les plus habituellement, sont celles dont le parfois nous échappe. Et par exemple, si nous demandons à des croyants, ou si on nous demandait à nous-mêmes de résumer simplement le cœur, le message central de l'Évangile, eh bien, on a parfois du mal. Ça devient un exercice assez périlleux pour certains d'entre nous. Et je crois qu'il en est de même du baptême, par exemple. Est-ce que le baptême, ou plus particulièrement aussi la table du Seigneur ou la Sainte Cène. Quelle serait notre réponse à ces questions? Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Pourquoi le prenons-nous? Que se passe-t-il quand nous le prenons? Qui doit le prendre? Donc, c'est un tas de questions qu'on pourrait se poser. Et quelle réponse, surtout, donnerions-nous à ces questions? Et donc, nous voulons prendre le temps, peut-être comme on célèbre la scène à chaque premier dimanche du mois, de prendre le temps pendant quelques premiers dimanches du mois de réfléchir un peu sur cela. Alors, on ne peut pas aller dans tous les détails, mais au moins considérer à chaque fois quelques aspects. Et dans les tout premiers instants de l'Église primitive, la Bible nous dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est ainsi que parle la scène, et puis aussi dans les prières. Et nous voulons considérer ce matin quelques aspects de cela de la scène en regardant le texte en 1 Corinthiens chapitre 11 qu'on lit souvent, que vous connaissez sans doute bien. Et le titre de notre message ce matin, c'est la scène, un souvenir, un mémorial, on pourrait dire, un souvenir de Christ. Lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 34. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai toute autre chose quand je serai arrivé. Voilà donc le, on a un peu le contexte dans lequel l'apôtre Paul présente la scène du verset 23 jusqu'au verset 26. Ici, et nous voulons considérer quelques aspects de cela. Premièrement, la signification de la scène. Qu'est-ce que la scène à partir de ce passage? Pourquoi les chrétiens célèbrent-ils ce repas? Quel sens a ce rituel un peu, peut-être que certaines personnes qui ne connaissent pas peuvent trouver étrange, de personnes qui se rassemblent autour de pain, de vin, et puis qui mangent ensemble. Bien, je crois que le sens principal, le premier sens, c'est de vraiment maintenir le souvenir de Christ dans son œuvre expiatoire. C'est pas l'objet exclusif, peut-être, de la scène, mais en tout cas, c'est l'objet probablement principal de la scène. Maintenir vivant dans l'esprit, le cœur des croyants, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il y a un appel au souvenir ici. La confession de foi baptiste de 1689 dit ceci. Il dit « Le Seigneur Jésus a institué la scène la nuit où il fut livré pour qu'elle soit observée dans ses églises jusqu'à la fin du monde afin d'être un souvenir perpétuel et une déclaration du sacrifice de lui-même en sa mort. » Je redis cela. Le Seigneur Jésus a institué la scène la nuit où il fut livré pour qu'elle soit observée dans ses églises afin, jusqu'à la fin du monde, afin d'être un souvenir perpétuel et une déclaration du sacrifice de lui-même en sa mort. On peut bien sûr trouver d'autres implications à la scène, mais l'apôtre Paul et puis Luc aussi le soulignent, eh bien c'est un appel au souvenir. On trouve cette phrase « Faites ceci en mémoire de moi » aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 22 au verset 19. Donc le contexte immédiat de l'institution même de la scène, si nous lisons dans les évangiles, c'est la fête de Pâques. Et Jésus dit ceci dans Luc 22, il dit à ses disciples, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et c'est dans ce contexte qu'il institue aussi la scène. Et les disciples ont dans leur esprit toute la fête de la scène, de la Pâque et ce que cela représente. Et c'est dans ce cadre que Jésus dit, « Ceci est mon corps. » Et ceci est mon sang, prenez, mangez, prenez, buvez. Et si on se souvient de l'institution de la Pâque en Exode chapitre 12, au verset 14, il est dit, après que Dieu donne ses instructions, on ne prendra pas le temps de lire ça, mais vous pouvez le faire à la maison, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et donc quand il institue la Pâque, il dit que vous devez conserver le souvenir de ce jour où Dieu vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous le conserverez en souvenir et puis vous le célébrerez parce que pour se souvenir, il faut célébrer. On ne se souvient pas si on ne célèbre pas continuellement. Donc le peuple d'Israël était amené à célébrer continuellement cette fête pour se souvenir de ce jour où Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu connaît notre propension à oublier. L'Écriture nous rapporte que le peuple d'Israël, malgré tout cela, eh bien, était un peuple oublieux. Regardez en psaume 106, très rapidement, nous pouvons lire au verset 7, par exemple, psaume 106, verset 7, il est dit que nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas, voyez, ils ont oublié, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Au verset 12, il dit, ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, verset 13, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres et ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Verset 21, enfin il dit, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Est-il possible que l'on oublie une grande délivrance dont on a été l'objet? Eh bien, Dieu dit oui. Et c'est pour cela qu'il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et qu'il le donne. Et en Deutéronome, chapitre 6, on trouve dans la Bible, on trouve beaucoup d'exhortations contre l'oubli. Hein. Et en Deutéronome, chapitre 6, verset 12, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, dit à son peuple, lorsque tu seras en Canaan, lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasiras, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le cœur humain oublie souvent. Le cœur humain oublie souvent. Et il oublie souvent la source de ses bénédictions pour s'attacher seulement aux bénédictions reçues. Et c'est pour ça que Dieu dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasiras. Il dit, à un moment donné, il dit, garde-toi de dire en ton cœur que c'est par ma force que j'ai acquis toutes ces choses. Souviens-toi de l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La liberté du peuple et sa prospérité étaient la conséquence, bien sûr, de leur délivrance de l'Égypte, de leur rédemption. Et le peuple le sait, mais il pourrait l'oublier. Alors Dieu lui dit de se garder d'oublier cela. Dieu veut que son peuple se souvienne, qu'il ne relègue pas au second plan l'œuvre principale de la rédemption. Et je crois que quand Jésus donne la scène, il en est de même. Il dit, le Seigneur institue ce repas, et Paul dit, ce que je vous dis, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il a rompu et il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et deux fois, il le dit, verset 26 encore, faites ceci en mémoire de moi. Il y a beaucoup de choses dans la vie d'une église qui peut accaparer sa pensée, bien sûr, et la faire oublier l'essentiel. Elle peut être tellement occupée à la mise en place de ses différents programmes, programme de Noël, programme de Pâques, club d'enfants, réunion de dames, études bibliques tamoul, distribution, chorale, groupe de jeunes, etc. Tellement de choses qui sont des choses importantes à faire, mais peuvent accaparer la pensée même de l'Église jusqu'à obstruer l'essentiel, jusqu'à lui faire oublier l'essentiel. Et Dieu donne la scène pour que son peuple se souvienne toujours de ce qui est primordial, incontournable, ce qu'on ne doit jamais oublier, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. La mort expiatoire et substitutive de Christ, c'est le grand fait de l'histoire du salut. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Et c'est sans doute ce que nous oublions le plus facilement, ce sous quoi on médite le plus rarement. C'est ce que l'on tient vite pour acquis et de manière à pouvoir se tourner vers ce qui est périphérique, ce qui est important peut-être, mais ce qui est périphérique. Et l'apôtre Paul est conscient de cette nécessité quand il dit lui-même, quand il parle aux Corinthiens, au chapitre 2, il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et donc ici, la scène permet de maintenir vivant dans le cœur, dans l'esprit des croyants, ce qui est important concernant Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection. On pourrait dire même, par les éléments qui sont présentés, il dit ceci est mon corps, etc. Donc il y a inclus ici la notion de l'incarnation, de Dieu qui s'est fait homme, il y a sa vie, sa souffrance, sa mort, le sang, la coupe présentée séparément du pain, symbolise aussi la mort, hein, le sang séparé du corps, donc cette mort de Christ, et puis aussi sa résurrection. Il dit même, l'apôtre Paul dit, que Jésus dit que cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Donc il y a le souvenir de cette alliance dans laquelle le croyant est avec Jésus-Christ, et tous les récits de la scène évoquent cet aspect de l'alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple, présente de manière radieuse et exaltante la nouvelle alliance. Hébreux 8, versets 6 à 13, vous pouvez lire cela. Jésus est présenté comme le garant d'une nouvelle alliance plus excellente. Hébreux 13 dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle donc de celui qui a acquis notre salut par le sang d'une alliance éternelle. Toutes ces choses sont importantes et il faut s'en souvenir, il faut les méditer, il ne faut jamais les oublier. C'est la volonté de Dieu que cela reste présent et vivant dans le cœur de ses enfants, plus que toute autre chose. D'accord ? Il y a plein d'églises qui ne feront jamais ce que nous faisons. Il y a plein de choses que d'autres églises font qui sont de bonnes choses que nous n'aurons jamais l'occasion de faire parce que nous n'en avons pas simplement les moyens. Mais une chose qui est commune, dénominateur commun à tout le peuple de Dieu, c'est vraiment le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et ces choses ne doivent jamais quitter notre cœur et notre esprit. Dans cette mort expiatoire se trouvent toutes les ressources nécessaires pour le salut parfait et la vie du croyant. Voulez-vous une preuve de l'amour de Dieu? La Bible dit, souvenez-vous de sa mort. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voulez une preuve de l'amour de Dieu? Méditez sur la mort de Christ. L'immense preuve de l'amour de Dieu n'est pas le travail que vous avez, c'est pas la santé, le mari, l'épouse, les enfants que vous avez. L'immense preuve, c'est le don de son Fils en sacrifice pour nous. Voulez-vous une preuve que Dieu prendra soin de vous? Trouvez cette preuve dans la mort de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses ?» Avec lui. Ça veut dire que vous voulez savoir que Dieu vous donnera toutes choses, il faut considérer le fait qu'il n'a pas épargné son Fils. C'est-à-dire, il faut considérer le fait que Christ est mort pour nous. C'est là qu'on va chercher la preuve que nous aurons tout aussi par lui. Voulez-vous une preuve que vous ne serez pas condamné devant Dieu si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ? Eh bien, dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci. Le Saint-Esprit part, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, il dit. Il ajoute bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. C'est la preuve que sa mort de l'efficacité de sa mort. Il n'est pas resté dans la tombe, il a été ressuscité. Donc sa mort est vraiment une mort expiatoire. Et donc c'est pour cela qu'il dit, qui nous condamnera? Christ est mort. Et même bien plus que cela, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Sa résurrection et sa position à la droite de Dieu témoignent de cela. Donc l'objet principal de la scène, c'est vraiment de maintenir vivant notre esprit le sacrifice de Jésus-Christ. Mais aussi, l'apôtre Paul le dit dans ce passage, c'est une proclamation publique de l'évangile aussi. Car toutes les fois que vous, verset 26, que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et Paul rappelle aux Corinthiens que la participation à la scène est une proclamation. Ils annoncent, hein, c'est le verbe qui est utilisé ici, et c'est celui qui est utilisé en général dans les évangiles pour parler de l'annonce de l'évangile, hein, du fait de proclamer l'évangile. Par exemple, en Colossiens 1, verset 28, quand il est dit, l'apôtre Paul dit, c'est lui que nous annonçons, c'est le même mot ici, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et donc l'Église réunis autour de la table, proclame l'évangile à tous ceux qui sont présents. Le cœur de l'évangile est annoncé au moment où les chrétiens se réunissent autour de la table et qu'ils rompent le pain, qu'ils le mangent, qu'ils prennent la coupe et qu'ils boivent. Dans le livre de l'Exode, vous vous rappelez, lorsque Dieu a institué la célébration de la scène, il a prévu que les choses se passeraient de telle manière que les enfants interrogeraient leurs parents en leur demandant « Mais à quoi correspond tout ce que vous êtes en train de faire ?» N'est-ce pas ? Regardez Exode chapitre 12, verset 25. Exode chapitre 12, verset 25. Dit, quand vous serez, alors verset 24, il dit, vous observerez cela comme une loi et vous et vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon la promesse, vous observerez cet usage sacré, la célébration de la Pâque. Il dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque. En l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et le peuple s'inclina et adora. Et on trouve la même chose au chapitre 13 et au verset 6, par exemple, où il est dit, 6 à 8, verset 8, il dit, tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Autrement dit, ici, il y a une proclamation qui se fait lorsque le peuple célèbre la Pâque. Il y a une proclamation qui se produit lorsque le peuple de Dieu partage la scène, mange le pain et boit de la coupe. Et donc, on pourrait dire que de même que les parents devaient répondre à leurs enfants, sur le sens de la célébration de Pâques, eh bien de même, il y a une proclamation qui est faite ici, peut-être aux interrogations silencieuses des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. J'ai vu parfois des églises qui font sortir les personnes au moment de la scène, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, parfois ça arrive. Et donc, ils font sortir les personnes qui ne sont pas croyantes et qui ne veulent pas participer à la scène. Et donc j'ai vu parfois des endroits où on célèbre la scène, et puis à l'extérieur, il y a tout un tas de gens qui font du bruit, qui parlent, qui discutent de toute autre chose. Et c'est assez étrange. L'apôtre Paul dit ici que ceux qui partagent la scène proclament l'évangile, même à ceux qui ne connaissent pas. Et donc il est important que ceux qui ne connaissent pas voient ce qui se passe, qu'ils voient les chrétiens réunis, qu'ils s'interrogent, qu'ils se disent, mais pourquoi, et que nous expliquions à quoi cela correspond. Il n'y a rien de magique qui se passe. Vous voyez, c'est un message public. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un cercle privé pour des initiés comme dans certains lieux. Non, c'est une manifestation publique dans laquelle l'évangile est proclamé. Et donc, nous sommes des évangélistes, tels que Dieu le veut, lorsque nous participons à la table du Seigneur. Nous annonçons la mort du Seigneur, dit l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il vienne. Le cœur de l'évangile est annoncé dans la célébration de la scène. Ce qui est donné à voir dans la célébration, c'est comment le peuple de Dieu adore, comment il le célèbre, combien Christ, dans sa mort et sa résurrection, est central pour la foi chrétienne. Ce qui est donné, c'est le témoignage des personnes qui se remémorent la mort de Christ, sa résurrection, qui affirment leur complète dépendance de Christ pour leur salut et pour leur vie entière. Troisièmement, on pourrait dire que ici, il y a aussi le sens dans la scène d'une anticipation du retour de Christ, parce que l'apôtre Paul dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus, du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. La célébration de la scène ne durera pas éternellement. Elle est donnée jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus avait dit à ses disciples, je n'en boirai plus de nouveau jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Les croyants sont appelés à vivre, oui, dans le souvenir de ce que Christ a fait, ici, mais aussi dans l'attente, dans l'anticipation de son retour. Il a à la fois un regard vers le passé, dans le présent qu'il vit, et puis vers l'avenir. Et un auteur a dit que la scène, c'est une prédication avec un double objet. Le plus grand événement du passé, la mort du Seigneur Jésus-Christ, et la plus haute certitude de l'avenir, son retour glorieux. Et c'est ce que nous annonçons, c'est ce que nous attendons. Nous nous attendons, nous disons quand nous prenons la scène, puisque nous le faisons tel que le Seigneur le demande ici, que nous attendons son retour et que nous l'anticipons en le faisant. L'évêque Ryle, en cliquant, disait ceci, il dit que la scène du Seigneur a été donnée pour un souvenir continuel du sacrifice de la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Les avantages qu'il confère sont spirituels et non physiques. Ces effets doivent être recherchés dans notre homme intérieur. Il était destiné à nous rappeler par les emblèmes visibles et tangibles du pain et du vin que l'offrande du corps et du sang de Christ pour nous sur la croix est la seule expiation du péché et la vie de l'âme d'un croyant. Il était destiné à aider notre pauvre, froid, faible à se rapprocher davantage de notre Sauveur crucifié et nous aider à nous nourrir spirituellement du corps et du sang de Jésus-Christ. Et voilà ce que fait la scène. Et on doit avoir ces choses dans notre esprit lorsque nous nous approchons en tant qu'enfants de Dieu de la table du Seigneur. Une deuxième question, donc après avoir regardé rapidement quelques significations de la scène, que l'on voudrait se poser, c'est qui sont les participants de la scène ? Quels sont les participants de la scène ? Dans notre texte, l'apôtre Paul répond à cette question de manière indirecte dans ce qu'il dit. Il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi, et là il parle de celui qui participe, c'est pourquoi celui qui mangera le pain, qui boira la coupe, indignement sera coupable envers le corps du Seigneur, et que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, ajoute-t-il, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont mort. Donc ces versets contiennent un avertissement concernant la participation à la table du Seigneur. Et donc une restriction pour les participants à la table du Seigneur. Qui peut participer à la table du Seigneur ? Premièrement, est soulevé, je crois ici, la manière avec laquelle on ne devrait pas participer à la table du Seigneur. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc il y a ici exprimé très clairement qu'il ne faut pas s'approcher de la table d'une manière indigne. Alors bien sûr, il n'est pas question d'être digne soi-même, personne n'est digne. Qui est digne ? Personne n'est digne, mais il est question de la manière avec laquelle on s'approche de la table. Et deuxième chose, manière avec laquelle on ne devrait pas participer, c'est en venant avec un manque total de discernement de ce que l'on fait. Qu'est-ce que l'on fait quand on prend la table ? Si on vient comme cela parce que voilà, il faut le faire ou sans savoir ce que l'on fait, il dit que ça c'est grave. Il faut avoir une compréhension de ce que l'on fait. On dit quelque chose quand on participe à la table du Seigneur. Il est important de savoir ce que l'on dit. Et au moins comprendre ce que signifie la table du Seigneur. Et les conséquences de telle participation sont terribles. Il parle de culpabilité envers le corps et le sang du Seigneur, et puis il parle de manger et boire son propre jugement. Donc c'est dire qu'il faut prendre la chose au sérieux. Que fait celui qui participe à la table du Seigneur ? Il déclare son appartenance à Christ. Il dit qu'il est participant des bienfaits que Dieu donne en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Il affirme que le sang de Christ est suffisant pour laver tous ses péchés. Il dit, je me souviens de Jésus-Christ, je prends ce pain, je le mange parce que je crois que son corps a été brisé pour moi. Je bois ce vin car son sang a été versé pour moi. Je crois que mon péché est ôté par le sacrifice de Jésus-Christ. Je mange ce pain, je bois ce vin, car Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. On pourrait le dire de différentes manières. Ainsi, celui qui ne peut pas dire réellement ces choses avec vérité, eh bien, il s'approche d'une manière indigne. S'approcher d'une manière indigne, ça veut dire s'approcher d'une manière qui n'est pas, qui est inconvenante, c'est ça que le mot veut dire, une manière qui ne convient pas à ce que ce repas représente réellement. Celui qui mange et boit sans discerner, je crois que l'idée est aussi là, c'est celui qui s'approche sans un véritable discernement, sans une véritable compréhension, qui ne peut pas distinguer entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est pur et ce qui est impur. Il y a l'idée vraiment d'une distinction à faire, d'une manière indigne et donc une manière sans distinction de la valeur, de la sainteté, de la grandeur de ce qui est fait, et de la grandeur même de l'œuvre et du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc par cette attitude, qui est une attitude irrévérencieuse, eh bien, les Corinthiens ne tenaient pas le repas du Seigneur pour ce qu'il est réellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul leur dit, quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre le repas du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient. Dans ce qu'ils faisaient, il y avait une attitude qui montrait qu'ils ne discernaient pas ce qu'était réellement le corps de Christ. Et la sainteté même du repas, de la table du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il leur fait cette remontrance ici. Donc la participation à la table n'est pas quelque chose de neutre. Elle n'est pas non plus un bienfait pour quiconque. On ne peut pas dire aux gens, voilà, venez quel que vous soyez, vous venez à la table, ça va vous faire du bien. Enfin, ça ne peut vous faire que du bien. Ben, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible montre ici qu'on ne peut pas s'approcher de n'importe quelle manière. Donc, ça ne peut pas faire du bien qui que je sois. Hein. L'état de celui qui participe a une grande importance, ce que l'on peut voir ici. Donc, celui qui participe doit comprendre de quoi il s'agit. Il doit comprendre le sens de ce repas. Cela doit être clair pour lui. Le sacrifice de Jésus-Christ doit avoir une réalité expérimentale dans sa vie. Je vous cite encore cet évêque Ray, il dit, pour profiter d'une fête spirituelle, nous devons avoir un cœur spirituel. Et il dit, du goût et de l'appétit spirituel. Il dit, supposer que la table du Seigneur peut faire du bien à un homme non spirituel, il dit, c'est aussi stupide que de mettre du pain et du vin dans la bouche d'un mort. Et ça, il dit, s'il n'y a pas de réalité spirituelle avant, inviter quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, qui ne distingue pas ces choses, à prendre, participer à la table, c'est comme mettre du pain et du vin dans la bouche de mort. Ça n'a aucun effet. Ceux qui s'approchent de la table sont ceux qui sont déjà au Seigneur, ceux qui sont déjà pardonnés, ceux pour lesquels il y a déjà une réalité spirituelle vivante, ceux dans lesquels l'Esprit de Dieu vit. Ce sont ceux-là qui sont appelés à la table du Seigneur. Alors, quelle est, on pourrait dire rapidement, la manière digne de s'approcher de la table du Seigneur? Premièrement, on pourrait dire la repentance et la foi. L'apôtre Paul écrit ici à ses Corinthiens pour les corriger, que chacun donc, il dit, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange. Il parle des divisions qu'ils avaient entre eux. Il parle de la manière indigne avec laquelle ils prennent la table. Et maintenant, il demande qu'ils s'examinent. Ça veut dire qu'ils s'éprouvent soi-même, s'examinent, et puis qu'ils mettent leur vie devant Dieu, et qu'ils se repentent. Et puis, qu'ils mangent. Et donc, il est important de se repentir, véritablement. Et de croire véritablement en Jésus-Christ. Quel rapport, se poser un certain nombre de questions, quel rapport j'entretiens avec mon péché quand je pêche? Est-ce que je me repens ou est-ce que j'aime mon péché? Est-ce que j'aime regarder ce genre de film obscène? Est-ce que je me complais dans ma colère? Est-ce que je refuse de pardonner? Est-ce que quand je pêche, je suis contrit, je suis brisé et je me repens, comme David le fait par exemple dans le psaume 51? Ou est-ce que je dis, ça n'est pas grave? Est-ce que je cherche toujours à me justifier? Quel rapport véritable j'ai avec mon péché? Si je me repens, si je suis attristé quand je pêche, oui, je tombe, mais je suis attristé quand je pêche, eh bien,
c'est du repentir vrai. Personne de ceux qui s'approchent de la table sont parfaits. La repentance ne peut pas être parfaite tant qu'on est sur la terre. La foi ne peut pas être parfaite tant qu'on est sur la terre. Les disciples, quand ils ont pris la scène pour la première fois, peu de temps après, ils sont désertés. Hein? Personne n'est parfait. Mais il faut être au Seigneur. Il faut avoir une foi sincère. Et vivre une repentance continuelle, sincère. Dans laquelle on cherche toute notre force à nous éloigner du péché. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça qui est important. Et puis s'approcher d'une manière digne aussi, c'est, je crois, d'après ce texte, c'est montrer un amour pour les autres. Rappelons-nous que Paul donne ses instructions pour corriger les Corinthiens chez lesquels il y avait des divisions. Verset 18, il dit « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Et donc, il évoque les divisions ici de nature sociale qu'il y avait dans l'Église. Division entre les riches et les pauvres, entre ceux qui avaient beaucoup et ceux qui n'avaient rien. Et il y a dans l'Église, dans les Églises, des différences sociales. Aujourd'hui encore, comme il y en avait avant. La différence sociale n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la division sociale. La différence sociale n'est pas un problème. Dieu n'a jamais dit que tout le monde doit avoir le même niveau social. Ce n'est pas vrai. Il y aura des riches, des pauvres, des moins riches, des plus pauvres, etc. Ça n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est lorsqu'on en fait une division. Et les Corinthiens avaient l'art de transformer les différences en divisions. Rappelez-vous, il y avait qui disait « Moi, je suis du parti de Paul. Moi, je suis de Céphas, Apollos. Moi, je suis... » d'un autre. Et puis il y avait les plus spirituels, peut-être qu'ils disaient, moi je suis de Christ, du Seigneur. Mais sur quoi ils se sont basés? Sur des différences réelles entre Paul, Céphas, etc., Apollos, pour en faire des divisions. Hein. Donc, ils transforment ici une différence en division, de même qu'ils transforment maintenant les différences sociales en divisions sociales. Et quand on fait cela, eh bien, on témoigne évidemment d'un manque d'amour. Tout cela, c'est preuve qu'il n'y a pas d'amour les uns envers les autres. Et c'est pour ça que la conclusion de Paul, après cette exposition, elle est la suivante. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Attendez-vous de manière à partager ce repas ensemble les uns des autres. C'est une attitude d'amour qui est demandée. Et on ne peut s'approcher de la table du Seigneur en gardant, de son côté, des ressentiments à l'égard des autres. Rappelez-vous ce que Jésus dit, hein, si tu viens pour offrir ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. On ne peut pas s'approcher de la table du Seigneur si, d'un autre côté, de notre fait, on refuse de pardonner, on refuse d'aimer les autres. Et donc, il y a cette attitude d'amour que l'on doit manifester les uns avec les autres. Parce que c'est la table, dans 1 Corinthiens 10, il dit c'est la table de la communion, ici. Et puis, je voudrais, troisièmement, donc, vu un peu la signification de la scène, les participants à la scène, mais voir aussi l'impératif de la scène. Faites ceci, dit l'apôtre Paul, dit Jésus, hein, en mémoire de moi. C'est un impératif, c'est un commandement qui est donné. Le Seigneur ne dit pas à ses enfants, s'il est possible, faites ceci en mémoire de moi. Ou si le cœur vous en dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un ordre sans équivoque, faites ceci en mémoire de moi. Le commandement est précis, faites ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez et mangez, prenez et buvez, faites-le. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. Il ne dit pas souvenez-vous simplement, intellectuellement. D'accord? Il ne dit pas faites un effort intellectuel pour vous souvenir de ce que j'ai fait. Il dit souvenez-vous-en en faisant ceci, en mangeant et en buvant. Et c'est un commandement qu'il donne ici. L'Ancien Testament... Dans l'Ancien Testament, pour la célébration de la Pâque, il était hors de question qu'un enfant du peuple de Dieu
en état de participer à la Pâque sans dispense. Nombre chapitre 9, et je vous lis cela, hein, il dit ceci. Nombre chapitre 9, nous pouvons lire ceci. Lorsque il est question d'organiser le camp, le chapitre 9, verset 1 dit: l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï le premier mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte, et il dit: que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, entre les deux soirs, dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel leur avait donné à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause de mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent ce même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse: nous sommes impurs à cause de mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit: attendez, que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au deuxième mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Il n'en laissera rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. 6, verset 13. Celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Donc, il était hors de question pour un Israélite de s'abstenir de la célébration ordonnée par Dieu. Les commandements de Dieu ne souffrent d'aucune dérogation. La Bible dit: tu as donné tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et donc, il est important que l'enfant de Dieu fasse tout ce qui est en son pouvoir pour observer le commandement de Dieu. Il y a un prédicateur qui s'appelait Charles Simeon, 1759-1836, c'est un prédicateur en Angleterre, il fait remarquer ceci. Il dit: les Juifs se rendaient 3 fois par an à Jérusalem, depuis les parties extrêmes de Juda, pour commémorer leur délivrance. Il dit: et nous, tournerons-nous le dos à la table lorsqu'elle sera étalée juste devant nous? Il dit: ils faisaient des kilomètres 3 fois par an pour ne pas rater. Qu'est-ce que nous faisons? Écoutez ce que Spurgeon dit de manière plus imagée. Il dit: supposez que Christ vous parle et vous dise: faites ceci en mémoire de moi. Il regarde et il vous voit assis à votre place, alors que les autres s'approchent de la table. Vous n'êtes pas venu à la table, alors il s'assoit à côté de vous et il vous dit: je pensais avoir dit, faites ceci en mémoire de moi. Et vous dites: Seigneur, je sais que tu l'as dit. Alors le Seigneur dit: m'aimes-tu? Et vous de répondre: oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais j'ai dit: allez, faites ceci, mangez, buvez. Et puis après il donne tout un tas d'excuses que l'on peut donner. D'accord. Et parmi les excuses que l'on donne souvent, c'est: je suis pas prêt, je suis pas encore baptisé. Bien, qu'est-ce que tu attends? Si tu professes être un chrétien, pourquoi tardes-tu? Parfois on dit: je ne peux pas manger ou boire un jugement contre moi-même. Mais ne pas obéir au commandement, c'est se placer sous le coup du jugement aussi. Okay. Parfois d'autres disent, je sais que je vis dans le péché. Alors on s'auto-censure parfois soi-même en disant, je ne participe pas à la scène parce que je sais que je ne vis pas comme je devrais vivre. C'est une bonne chose de s'abstenir de la scène quand on est dans cet état. C'est bien. Mais cela attire une question quand même. Pourquoi demeurez-vous dans cet état et ne vous repentez-vous pas? Parce que tant que vous vivez dans le péché, vous n'avez aucune certitude que vous êtes au Seigneur. Parce que la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, on ne s'auto-censure pas quand on pêche. La seule chose que l'on puisse faire, c'est se repentir. Le commandement de Dieu demande de se repentir quand on pêche. Et quand on est en état de participer à la table, le commandement de Dieu demande que l'on participe à la table du Seigneur. Jésus disait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc si on professe être un enfant de Dieu et qu'on ne fait pas ce qu'il dit, on doit se poser des questions. Jésus lui-même, il dit, pourquoi? Il faut lui expliquer quel est le sens, quelle est la logique de cela. S'il est Seigneur, c'est qu'il a tous les droits. Et je lui dois obéissance complète. Alors certes, on a dit tout à l'heure, on n'est pas parfait. Certes, on fait mal ce que l'on fait. Mais on doit marcher de progrès en progrès. Chaque chose que Dieu met devant nous, chaque commandement, on doit, par sa grâce et avec la puissance de l'Esprit qu'il nous donne, faire tout pour obéir à ce commandement du Seigneur. La scène est un impératif pour tous les enfants de Dieu. Et il leur appartient de conformer leur vie afin de pouvoir y obéir comme le Seigneur le commande. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi pour te demander encore de nous éclairer, que ce ne soit pas nos sentiments, nos opinions, nos conceptions des choses qui priment dans nos cœurs, mais ta parole, la vérité de ta parole. Je te prie que tu nous aides en tant que tes enfants à nous soumettre à ce que nous lisons dans ta parole, à être des enfants obéissants. Que si nous t'invoquons comme Père, nous devons apprendre à nous conduire avec crainte dans notre marche ici-bas. Et nous te prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin que tu touches leur cœur, que tu leur donnes un saint respect pour tout ce qui te concerne, une crainte respectueuse de tout ce qui te concerne, de ta personne, de ton œuvre, que tu les attires à toi, selon ta grâce et dans ta bienveillance, pour la gloire de ton nom. Amen.